France Culture, il est midi 31. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban remporte ses troisièmes législatives d'affilée. Son parti Fidesz obtient près de la moitié des suffrages, une majorité des deux tiers au Parlement. Correspondance dans un instant de Florence Labruyère. En France, Marine Le Pen assure que les nationaux peuvent être majoritaires en Europe l'an prochain. Analyse de Marie-Pierre Véraud. Plusieurs missiles qui frappent une base aérienne de l'armée syrienne dans le gouvernorat de Homs la nuit dernière. Au moins 14 combattants, dont des Iraniens tués. La Russie en attribue la responsabilité à Israël. Des frappes qui interviennent en tout cas au surlendemain d'une attaque chimique présumée contre la ville de Douma dans la Ghouta orientale. On fera le point avec Éric Biégala. En France, Notre-Dame-des-Landes, près de 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport, on retrouvera sur place Véronique Rebérotte alors qu'une opération d'évacuation a commencé ce matin avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles qui sont donc mobilisés sur place pour opérer cette évacuation. La grève à la SNCF, nous sommes au 4e jour. Mouvement encore très suivi aujourd'hui alors que débute l'examen à l'Assemblée de la réforme ferroviaire. On fera le point avec Annabelle Grelier. Emmanuel Macron, lui, va intervenir cette semaine par 2 fois dans les médias, jeudi sur TF1, dimanche sur BFM TV et Mediapart. Commentaire de Sophie Delpont, on reçoit dans cette édition Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Faut-il faire le procès des droits de l'homme et réhabiliter la loi naturelle? Il pense que oui. Notre invité, le philosophe Pierre Manon, nous rejoindra après votre journal, Antoine.
On commence donc par la Hongrie avec cette nouvelle victoire du Premier ministre Viktor Orban pour ses troisièmes législatives d'affilée. Il renforce même sa base électorale puisque son parti obtient près de la moitié des suffrages. C'est un score supérieur de près de 4 points à celui qu'il avait réalisé il y a 4 ans. Et ça permet à M. Orban de décrocher donc une nouvelle fois cette majorité des deux tiers au Parlement comme en 2010 et comme en 2014. Nous sommes en ligne avec Florence Labruyère. Bonjour.
Bonjour.
Quels enseignements d'abord on peut tirer de ce scrutin sur le plan électoral et politique ?
Alors, le Fidesz a attiré 350 000 électeurs de plus qu'il y a 4 ans. Ce sont des abstentionnistes qui vivent plutôt en zone rurale et qui ont été attirés par le discours très ferme de Viktor Orban contre l'immigration. En fait, toute la campagne du Premier ministre a été axée sur le danger du péril migratoire qui menace la Hongrie et il a vraiment réussi à imposer sa communication. Et puis, la victoire d'Orban est aussi due au système électoral qu'il a mis en place et qui avantage énormément son parti. Des experts ont calculé que le Fidesz aurait gagné toutes les élections des 25 dernières années avec ses règles électorales. Mais il faut dire que l'opposition a tout de même une part de responsabilité dans son échec. À Budapest, par exemple, les différentes formations d'opposition auraient pu gagner 5 sièges de plus au Parlement si certaines avaient accepté de se retirer en faveur du candidat d'un autre parti d'opposition mieux placé.
Pour la Hongrie, en tout cas, ça va être la continuité, mais avec peut-être une aggravation de cette tendance que l'on nomme illibérale. Monsieur Orban avait indiqué avant le scrutin vouloir rendre maintenant irréversibles les changements qu'il a impulsés depuis son retour au pouvoir en 2006. Qu'est-ce à dire, rendre irréversibles ces changements ?
Eh bien, vous savez, il y a un petit parti satirique ici en Hongrie et récemment, il a prononcé un discours qui parodiait Viktor Orban. Le discours disait « Ah, notre pays est sur la bonne voie, mais il y a encore des écoles libres et des médias libres, il faut fermer tout ça ». Eh bien, la satire est en train de devenir réalité, puisque hier, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il faudrait fermer les associations qui s'engagent en politique. En clair, les associations qui défendent les droits de l'homme. Et cela a été confirmé aujourd'hui. Une loi sera votée avant l'été. Alors, elle va peut-être pas interdire les ONG des droits de l'homme, mais elle va certainement leur mettre énormément de bâtons dans les roues et les harceler pour les empêcher de travailler. Ça provoquera sans doute de nouveaux conflits avec Bruxelles, mais Viktor Orban recherche les conflits et il a toujours besoin de se trouver des ennemis.
Florence Labruyère, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Budapest. En France, Marine Le Pen se réjouit dans un tweet ce matin que l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônée par l'Union européenne soit à nouveau rejetée. Et selon elle, les nationaux peuvent maintenant être majoritaires en Europe. Donc, elle fait référence aux prochaines élections européennes en mai de l'année prochaine. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Antoine.
Alors donc, les nationaux majoritaires au Parlement européen, est-ce que c'est d'abord électoralement possible ?
Mais tout dépend de ce que l'on entend par les nationaux pour l'heure. Si l'on s'en tient aux étiquettes, non. À la différence, par exemple, du Front National ou du PiS polonais, le Fidesz de Viktor Orban siège dans les rangs du PPE, le Parti Populaire Européen, majoritaire, aux côtés d'ailleurs d'Angela Merkel ou de Jean-Claude Juncker. Il n'appartient pas au groupe des droites extrêmes. Mais effectivement, les idées nationales qu'il promeut ont gagné en Hongrie et gagnent du terrain en Europe. Jugez-en, c'est la nation Hongrie que Viktor Orban se fait fort de continuer à défendre contre le grand remplacement préparé par Bruxelles et par l'ONU, grand remplacement des populations blanches et chrétiennes par des migrants musulmans venus du Proche-Orient ou d'Afrique. Un discours qui prospère en Europe centrale, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, voire Autriche. Mais le populisme et la droite extrême ont aussi progressé en Italie, aux Pays-Bas. Et la recette Orban pourrait inspirer. Fin 2014, il était en perte de vitesse quand la crise des migrants lui a donné cette occasion en or pour radicaliser son discours, chassé sur les terres de l'extrême droite, fustigeant ce cancer de l'immigration, le libéralisme sociétal, les sociétés ouvertes. On en voit bien les échos dans la vieille Europe jusqu'en France, et pas simplement encore une fois au Front National, car l'ironie c'est que ce discours qui voit le salut des nations européennes dans l'érection de frontières toujours plus infranchissables, c'est qu'il a débordé les frontières de l'extrême droite. Le Parti Populaire Européen, majoritaire, ne s'émeut guère des dérives qu'il entraîne toujours plus à droite. Orban a donc la voie libre pour continuer à promouvoir ce nationalisme contre Bruxelles, comme il l'a fait avec le groupe de Visegrad, mais pas contre l'Europe. C'est un nationalisme des nationalismes européens. Un mot enfin de la méthode qui pourrait peut-être inspirer cet illibéralisme qui a lui aussi le vent en poupe dans la région. Les médias indépendants sont muselés ou fermés, tout comme les ONG dont les activités ne servent pas le pouvoir. Les manuels d'histoire sont revisités, l'éducation reprise en main, tout comme la justice. Bref, les contre-pouvoirs sont mis en couple l'un après l'autre et la propagande inonde les discours publics. Là encore, ce n'est pas l'apanage de la Hongrie.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup. Plusieurs missiles ont frappé tôt ce matin une base aérienne de l'armée syrienne. Ça se passe dans la région de Homs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y aurait au moins 14 combattants, dont des Iraniens, qui auraient été tués. Une frappe qui intervient au surlendemain d'une attaque chimique présumée contre la ville de Douma, ça c'est dans la Ghouta orientale, et attaque que personne donc n'a revendiquée encore. Les États-Unis et la France avaient publié peu avant cette frappe un communiqué commun pour dire qu'il y aura une réponse forte de leur part et une réponse commune, et ils affirment ce matin être donc totalement étrangers à cette opération. La Russie en attribue la responsabilité à Israël par un communiqué du ministère de la Défense russe. Deux avions F-15 de l'armée israélienne qui ont frappé l'aérodrome donc dans la nuit, à l'aide de 8 missiles téléguidés depuis le territoire libanais, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien, précise encore Moscou. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, cette piste israélienne semble effectivement la plus probable à l'heure qu'il est.
Oui, c'est d'abord en raison de la nature de la cible visée cette nuit. La base de Tias ou T4 est située à peu près au centre du territoire syrien, à mi-chemin entre les villes d'Homs et de Palmyre. Elle a été reprise à l'État islamique il y a 2 ans par les forces pro-régime. Actuellement, elle accueille des contingents de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution iraniens, et du Hezbollah libanais, les principaux ennemis d'Israël dans la zone. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque de cette nuit aurait fait une quinzaine de victimes sur la base, des Iraniens ou des combattants affiliés à l'Iran en majorité, ainsi que 2 ou 3 officiers de l'armée de Bachar. Israël avait d'ailleurs déjà frappé cette base, une fois en mars de l'année dernière et une seconde fois en février dernier, après l'envoi à partir de Tias d'un drone iranien sur Israël. La base, en effet, aurait abrité le principal centre de commandement opérationnel des drones pilotés par les Iraniens en Syrie. Ce qu'il y a de très clair, en tout cas, c'est que ce bombardement nocturne sur Tias, que personne ne revendique, peut difficilement être considéré comme une réponse à l'attaque de Douma à l'arme chimique ce week-end.
Alors, à propos de cette attaque maintenant, je vois qu'à l'instant, Londres réclame aussi une réponse forte à l'attaque chimique présumée. Paris et Washington parlent d'une réplique qui serait également une réplique forte. De quelle nature pourrait-elle être et surtout dans quel délai peut-on l'attendre ?
Alors, quand on parle de réponse forte, dans ces cas-là, c'est bien d'une réponse militaire que l'on parle. Et compte tenu des menaces et autres lignes rouges évoquées par les uns ou les autres, des représailles armées et explicitement assumées sur le régime de Damas ou sur ses positions militaires semblent le plus probable, à moins bien sûr de vouloir complètement perdre toute crédibilité. Tout le problème maintenant, c'est de calibrer cette réponse. Si elle doit être forte, On peut imaginer qu'elle sera au moins aussi forte que la précédente, le bombardement par les Américains au missile de croisière d'une base aérienne syrienne quelques jours après l'attaque chimique des avions du régime sur Khan Cheikhoun. C'était il y a un an, une soixantaine de missiles Tomahawk avaient été tirés à l'époque. Mais il s'agit aussi de mesurer exactement jusqu'où aller dans la réponse, jusqu'où ne pas aller trop loin si vous voulez. Moscou a d'ores et déjà averti que toute intervention militaire des Occidentaux sous de faux prétextes en Syrie, où se trouvent des soldats russes, pourrait entraîner, je cite, « les conséquences les plus sérieuses », écrivait dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères russe ce week-end. Et par conséquences les plus sérieuses, il faut bien évidemment comprendre un affrontement direct entre Occidentaux et Russes en Syrie.
La Russie qui affirme n'avoir trouvé aucune substance chimique à Douma. Merci beaucoup Eric Biegala. L'actualité française avec d'abord l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes près de 3 mois maintenant après l'abandon de ce projet d'aéroport. Plusieurs centaines de gendarmes mobiles impliqués depuis l'aube dans une opération d'expulsion donc des occupants de la ZAD. Conférence de presse ce matin de la préfète de Loire-Atlantique qui indique qu'une dizaine de squats ont déjà pu être démantelés. L'opération concernerait une quarantaine de squats sur les 97 qui existent sur zone. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Où en étant les opérations? Comment se déroulent-elles?
Elles se sont déroulées en tout cas en deux temps. Si on refait le film de cette matinée, dès 3h du matin, la gendarmerie a procédé à ce qu'elle appelle une mission de maintien de l'ordre sur la route des chicanes en pleine nuit avec en face des gendarmes et une petite centaine de zadistes déterminés. Les gendarmes mobiles ont commencé donc à dégager ces troules symboles d'un retour de l'état de droit sur la ZAD. Puis une mission d'expulsion a alors débuté à 6h du matin. Elle n'est censée viser que les occupants opposés à toute régularisation selon le ministère de l'Intérieur. Claude dit Tonton des Planchettes, du nom du lieu-dit où était installée sa caravane depuis 5 ans, fait partie de ces expulsés de ce matin. Nous l'avons croisé sur une route, poussant un caddie avec ce qu'il a pu sauver, a-t-il dit, une guitare, un duvet. Pas le profil d'un radical, plutôt d'un SDF.
On l'écoute. J'étais encerclé pendant, de 2h du mat à, jusqu'au lever du jour. Hein. J'en avais deux tous les 20 mètres, quoi. Et donc, ils ont attendu comme ça. Et moi, j'avais pas d'attitude agressive et j'étais même plus que pour lui. Je pense qu'il devait avoir des consignes. Quoi. Et en fait, je pense qu'on attendait l'huissier. Il est venu, il m'a notifié, vous êtes expulsable immédiatement. Donc, j'ai donné mon identité et puis j'ai pris ce que je pouvais.
Alors, ils m'ont donné aussi un papier avec un numéro comme quoi je pouvais avoir droit à un hébergement d'urgence. Je lui ai demandé s'il m'envoyait au 115 et il m'a dit pas du tout. C'est un truc spécial justement pour les... un petit peu plus évolué, vous voyez.
Voilà, lors d'une conférence de presse tout à l'heure, la préfète effectivement de Loire-Atlantique s'est dit satisfaite de ce début de destruction de squats, trouvés quasiment sans occupants ce matin. Ils n'ont pas attendu les gendarmes, a-t-elle constaté. 10 squats en tout, sur le point de l'être, ou déjà fait, c'est déjà fait. Les gendarmes n'ont trouvé en tout cas sur place que 6 personnes en tout, à qui on a proposé aussi un logement provisoire, ce qu'ils ont refusé. Ils ont donc été expulsés, car sans droit ni titre. D'autres expulsions sont en ce moment en cours. La préfète est satisfaite en tout cas d'une résistance estimée plutôt légère de la part des zadistes, peu soutenue finalement sur le terrain, satisfaite aussi du travail des gendarmes dont la démolition des lieux de vie ne fait que commencer, a-t-elle dit, une quarantaine de démolitions prévues au total, cela devrait durer plusieurs jours, 2500 gendarmes en tout vont se relayer, jusqu'à quand, avec quelle victoire sur le long terme, c'est la grande question.
Merci beaucoup Véronique Robérotte, donc vous étiez avec Fabien Gosset sur le site de l'aéroport abandonné, du projet d'aéroport abandonné à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes au 4e jour de grève à la SNCF et le gouvernement déclare toujours vouloir mener jusqu'au bout sa réforme malgré l'opposition des syndicats et de la gauche. La grève est encore très suivie aujourd'hui alors que débute l'examen de la réforme ferroviaire donc devant l'Assemblée nationale. Le trafic très perturbé, un TGV sur 5, un Transilien et un TER sur 3 et un Intercité sur 6. Donc, selon les prévisions donc du trafic de la direction, la grève a déjà coûté une centaine de millions d'euros à la SNCF, affirme son patron Guillaume Pépi. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Alors donc, c'est le 4e jour, ça reprendra demain. Le prochain jour de cette grève perlée, c'est vendredi puis samedi. On est donc maintenant à nouveau dans un entre-deux grèves avec des concertations ou des négociations, on ne sait pas comment il faut les appeler. Et puis, il y a le débat parlementaire qui commence. Qu'est-ce qui peut changer avec cette nouvelle donne ?
Alors oui, côté calendrier, en effet, après son passage en commission, l'examen en séance plénière doit débuter à 16h et durer 4 jours. La CGT Cheminot et Sudrail, qui appellent à un rassemblement en début d'après-midi aux abords du Palais Bourbon, ont de nombreux relais parmi les députés de gauche, dont la plupart soutiennent la cause des cheminots. Communistes et insoumis en première ligne ont déposé de nombreux amendements pour le maintien du statut pour les nouveaux embauchés. On va sans doute assister à de belles passes d'armes à l'intérieur de l'hémicycle, un débat parlementaire musclé, mais pour quelle résultat, puisqu'Édouard Philippe estime que les grandes lignes de la réforme ne sont pas négociables et que la discussion n'est possible que sur ses modalités. Par ailleurs, vous l'avez dit cette semaine, de nombreuses discussions entre les syndicats et le gouvernement sont prévues, mais déjà, les syndicats disent ne rien en attendre. Pourtant, la ministre Elisabeth Borne estime avoir déjà fait des concessions, notamment concernant les cheminots qui changeraient d'employeur en cas de perte d'un marché par la SNCF. Ils conserveraient la garantie de l'emploi, la retraite, la rémunération. Selon les syndicats, tout ça n'est qu'une mascarade. Ils souhaitent que la question de la dette soit une question prioritaire. Bref, pour Sudrail et la CGT Cheminot et même la CFDT, ce ne sont pas des concertations. Ce sont deux mondes qui s'affrontent sans s'écouter, bloc contre bloc. Donc on continue. Ça risque fort d'ailleurs de continuer avec un mouvement de grève qui ne faiblit pas, qui va même sans doute se durcir si le gouvernement ou Emmanuel Macron finit jeudi sur TF1 par brandir le passage par ordonnance.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. Effectivement, dans ce contexte social chargé, le chef de l'État va intervenir dans les médias cette semaine, donc par deux reprises. Jeudi dans le 13h de TF1, journal de Jean-Pierre Pernaut, dimanche soir sur BFM TV et la radio RMC et le site Mediapart. Donc il va répondre là aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. Pernaut, Bourdin, Plenel, le chef de l'État manifestement veut ratisser large. Sophie Delpont.
Oui, pour cela le plan com' du président de la République s'articule effectivement en deux temps. D'abord un message adressé en priorité à la France rurale, avec notamment cette France des petites lignes de train. Un message aussi adressé aux retraités sur le plateau de 13h de TF1 jeudi, avec cette interview d'une heure. Puis un public d'actifs en majorité dimanche soir à 20h35. Une interview diffusée simultanément sur BFM TV et sur le site Mediapart pendant 2 heures cette fois. Deux rendez-vous qui lui permettent effectivement une exposition maximale. Avec Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron parlera depuis une petite école d'un village de l'Orne en Normandie. Pour tenter d'atténuer son image de président urbain et technocratique, tentative aussi de renouer avec des retraités échaudés notamment par la hausse de la CSG. L'interview de dimanche soir sera donc sur le site d'information et sur la chaîne d'info en continu, un moyen donc d'être aussi largement relayé sur les réseaux sociaux et de donner le ton pour le lundi matin avec beaucoup de reprises en perspective dans les médias, permettant à Emmanuel Macron d'avoir une exposition médiatique sur 2 semaines finalement dans le contexte de grève perlée et où les forces de gauche semblent retrouver ces dernières semaines les chemins de l'unité. La cote de popularité du chef de l'État a baissé de 2 points dans le dernier sondage Elab pour les Échos, avec seulement 39% d'opinion positive. Et alors que le conflit à la SNCF semble jouer un rôle de catalyseur dans la fragmentation de l'opinion publique, la confiance envers Emmanuel Macron s'est effondrée de 6 à 7 points même chez les classes populaires et les classes moyennes, alors que chez les cadres, sa cote aurait encore bondi de 6 points, atteignant 65% au plus haut niveau depuis son élection.
Merci beaucoup Sophie Delpont. À l'instant, nos confrères de France Info nous informent que l'AG des cheminots de Paris Nord a voté pour une grève reconductible donc à partir de ce vendredi 13 avril. Ça pourrait changer effectivement un petit peu la donne et le rythme de ce mouvement. On reçoit donc Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de Lutte Ouvrière. Est-ce que il est vrai selon vous que tout ça, ça se joue dans l'opinion, l'avenir du mouvement, en fonction du fait que les majorités de personnes vont se reconnaître dans ces revendications SNCF ou ailleurs?
Je pense en partie, mais évidemment, tout dépend quand même de la détermination des cheminots. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant 2 semaines, on a entendu des prétendus experts expliquer que même à la SNCF, les syndicats étaient très affaiblis, qu'il n'y avait plus de solidarité ouvrière, que les cheminots eux-mêmes s'étaient beaucoup embourgeoisés et qu'il était absolument impossible d'imaginer à nouveau un mouvement massif et aussi puissant. Et puis la réalité, c'est qu'il est là, et que on voit que des agents de conduite jusqu'aux guichetiers, jusqu'aux salariés des voies, des dépôts, il y a une unanimité contre, effectivement, ce qui est une attaque, d'abord, vis-à-vis de leurs droits de salariés. Donc moi, je crois que tout va se jouer dans la détermination de cette grève, et effectivement, sa capacité à redonner confiance, y compris aux autres travailleurs. hein, à faire la preuve que finalement on peut se faire entendre, on peut encore se défendre. Nous ne sommes pas voués toujours à subir et à reculer, nous les travailleurs.
Sophie Delpan.
Bonjour Nathalie Arthaud. Il y a eu une photo la semaine dernière qui montait un petit peu, montrait l'unité des gauches contestataires. Cette photo, donc, il y avait Olivier Besancenot, Benoît Hamon, il y avait aussi Éric Coquerel de la France Insoumise, il y avait aussi François Ruffin de la France Insoumise. Vous n'y étiez pas sur cette photo, alors pourquoi ?
Parce que nous n'avons jamais eu besoin d'être sur une photo commune ou de se déplacer ensemble à tel ou tel endroit pour se retrouver dans les manifestations et dans les contestations. Voilà, nous ne pensons pas que signer un communiqué commun puisse donner de la force à cette grève. C'est pas comme cela que ça se passe. En réalité, le monde du travail a peu confiance dans ses propres capacités à se battre. Et ça ne peut pas, ça ne viendra pas d'en haut. Cela viendra effectivement quand ils verront, quand ils se retrouveront nombreux, forts, quand ils se rendront compte que on exprime tous la même colère, le même refus.
Refus de colère, c'est comment vous la caractériseriez cette colère? Parce qu'elle est, elle est aujourd'hui spécifiquement, qu'est-ce qu'il y a une coloration particulière?
Eh bien, c'est tout simplement de voir que on est dans une société qui est très riche, où on a annoncé des profits faramineux, où la finance croule sous les milliards, où aujourd'hui dans les quartiers bourgeois, on peut mettre des milliers d'euros dans une paire de chaussures ou dans un sac à main, et on a un gouvernement qui nous explique à tous les travailleurs, qu'ils soient du privé, du public, qu'il faut encore se serrer la ceinture, qu'il faut reculer.
Vous nous le dites depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique là
en
ce moment?
Justement, là, effectivement, les cheminots se battent, c'est ça qui peut changer la donne. C'est que justement là, ce mécontentement, cette colère qui était enfouie et qui était finalement ce point qui était gardé dans sa poche, et ben là il sort. Voilà. Et moi j'espère effectivement qu'à partir de là, cela peut encourager l'ensemble du monde du travail à dire ça suffit.
Sophie Delpan.
Nathalie Arthaud, est-ce que vous appelez aujourd'hui à manifester le 5 mai prochain pour faire la fête à Macron comme le propose François Ruffin?
Moi, j'appelle à toutes les manifestations, aux grèves, qui peuvent réunir le plus de monde possible et qui peuvent donc peser, parce que je crois qu'effectivement, là, Macron est quand même tombé sur un os. Je pense que il se sentait fort. Dans son offensive anti-ouvrière, il a pu enchaîner un tas d'attaques, le code du travail, l'augmentation de la CSG, il prépare encore une réforme de la fonction publique avec 120 000 suppressions d'emplois. Et puis là, finalement, bien, il a la résistance en face de lui et je crois que cela peut changer la donne, inverser le cours des choses. Donc oui, nous serons partie prenante, par en bas, de toutes les manifestations et des grèves. Mais encore une fois, il faut faire la différence entre ceci et des tractations d'appareil. Voilà, nous n'avons pas la même politique que Benoît Hamon ou y compris que Jean-Luc Mélenchon. Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait taire nos différences. Le mouvement social n'a jamais été contradictoire avec des avis différents, avec des discussions, avec des divergences, avec toute une vie démocratique. Donc, pour nous, c'est pas du tout contradictoire.
Il y a ce mouvement en France et puis en Europe, on vient d'en parler au début du journal, il y a quand même aussi la montée des populistes, de l'extrême droite. Est-ce que pour les européennes prochaines, vous avez une vision, possibilité de dire que c'est une lutte gauche-droite qui va revenir finalement ou pas?
Non, mais je crois que gauche-droite, vous savez, y compris. Même cette unité, vous voyez, avec, par exemple, Génération, l'organisation Génération de Benoît Hamon, elle est quand même curieuse, parce que, y compris le pouvoir socialiste en place, il est allé dans ce sens de la mise en concurrence du ferroviaire dans cette société toujours plus, vouée à la concurrence, au marché, etc. Donc, pour nous, c'est évidemment pas la question de la gauche et la droite. Non, pour nous, la question, c'est est-ce que les travailleurs sauront se battre sur leurs intérêts, pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur retraite. C'est ça la question.
Une dernière question, Sophie Delpan.
Évidemment, comment vous comptez-vous vous impliquer dans ce combat? Est-ce que vous allez avoir des actions différentes, nouvelles, pour essayer de porter cette contestation contre
Alors,
le gouvernement?
D'abord, nous avons bien sûr des camarades qui travaillent à la SNCF et qui sont engagés pleinement dans cette grève. Et puis surtout, effectivement, nous adresser aux autres travailleurs. Parce que oui, le soutien de l'opinion ouvrière peut être déterminant. En 1995, les cheminots avaient gagné aussi parce qu'ils se sentaient justement soutenus par une fraction de la population importante. Donc oui, il s'agit de populariser cette grève, de dire c'est notre grève à tous, en réalité, les travailleurs.
Voilà. Pierre Menant est entré dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un petit pronostic sur ce mouvement social? Comment vous le sentez? Caractérisé
Non, je n'ai aucune compétence particulière, ni aucun pronostic. Je partage, je crois, le sentiment général de la population que l'on a besoin d'un service public des transports qui fonctionne. La SNCF ne fonctionnait pas très bien, mais on souhaite que ce soit, je dirais, cette SNCF qui fonctionne mieux.
Oui. Donc vous êtes d'accord avec Nathalie Arthaud, presque.
Je viens d'arriver. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis d'accord avec Nathalie Arthaud, voilà. Mais je partage ce vœu d'un service public. Voilà. De la SNCF.
On parle avec vous dans la deuxième partie de la Grande Pape permanent de la loi naturelle et les droits de l'homme, thème de votre précédent livre, enfin de votre récent livre. Un mot du temps, merci beaucoup Nathalie Arthaud, merci à vous Sophie Delpont. Un temps couvert et pluvieux sur la moitié ouest du pays, un ciel qui va se dégager progressivement sur l'est, des températures de 12 à 22 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.